septième voyage. Bonjour, Robertito.
Bonjour, Manu. De retour. Maintenant, en même temps, c'est quand même étrange, parce qu'il faut le dire, il y a des moments où je te vois sur les routes, en tournée, évidemment, avec l'orchestre et autres, et tu as beaucoup bougé. Et moi, c'était pas caméra à l'épaule, puisque c'est pas moi qui filmais, mais sur le coup, je me rends compte de ce que c'est quand tu dis, des fois, il faut savoir gérer son avion, ou alors choisir le lit pour qu'il soit dans la même position.
Ah ouais, pour mieux dormir. Ça, il y a des moments où, quand tu te lèves, les simples minutes, elles sont terribles, tu sais pas d'abord où tu es. Effectivement, le lit, comment il est orienté, tout ça, c'est des choses dont on ne prête pas attention, mais on les vit tellement qu'on oublie que tout ça, ça dépayse quelqu'un avant même d'entrer dans le vif du sujet, quoi. Voilà, ce dimanche aussi, à part nos lits qui sont orientés, donc, nous sommes contents d'être avec vous ensemble pendant 2 heures, parcourir différemment donc notre continent musicalement.
Et oui, un beau continent de Manu, un continent qui a été représenté sur la place de Paris, parce que tu le sais, il y avait ce fameux forum sur la paix où quelques chefs d'État africains sont venus. Et c'est vrai que la capitale française a revêtu quelques couleurs africaines malgré le froid.
Emmanuel, il bouge, parce que parler de paix, on choisit pas, mais c'est bien que ça arrive tout d'un coup, paf, avec tout le remue-ménage qui se passe sur tous les continents en ce moment, qui est l'initiative de parler de paix, alors qu'en Afrique, ça, les rythmes sont contre la paix plutôt. Hein.
Et oui, ce sont des rythmes qui riment malheureusement avec le son des armes et autres attaques. On en parlera dans la Maraboutique, avec une actualité qui est riche, pas simplement à la une des magazines.
Voilà, nous sommes toujours là, hein. Bon temps, mal temps, hiver, été, tout ce que vous voulez, mais bon, nous sommes ensemble, donc restez avec nous, parce que après ce que vous savez, nous allons parler d'un groupe mythique.
Et oui, un groupe mythique, une belle aventure qui a traversé d'ailleurs l'océan Atlantique, une aventure qui est encore présente dans les mémoires des mélomanes et que toute la famille connaît, la famille qu'on peut saluer ce dimanche.
Oui, à commencer par les papis.
Les mamies, les papas, les mamans, sans oublier
la progéniture. Très, 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 très belle aventure, il était une fois, mais avant ça,
une petite page de réclame.
Mmh.
Le dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
Il était une fois le Rico Jazz de Manu.
Quelle aventure, Robertito. Tu sais, on parle des groupes mythiques, on parle des Rolling Stones, on parle des Beatles. Mais en Afrique, il y a eu quelques groupes, en tout cas, au moins un groupe qui était un vrai groupe, parce que c'était des gars qui se sont choisis, et en plus, un groupe des deux côtés du fleuve Congo, c'est ça, le côté juteux de l'affaire, c'est qu'ils n'étaient pas tous du même Congo. Ils ont décidé de faire l'aventure ensemble, en tout cas les chefs d'orchestre, Freddy, qui est toujours en vie, Nkunku, et puis Bokilo, hein, Malekani, Bokilo, c'est moi qui l'ai appelé Bokilo, en réalité il s'appelle Jerry Malekani. Au départ il s'appelait Beko d'ailleurs.
Ah tiens.
Oui, oui, au départ il a changé en route.
Comme Gilbert ou bien alors?
Ah voilà, il aurait fallu lui poser la question, mais au départ c'était Beko pendant très longtemps, et quand il est parti aux Antilles, il a changé de Beko, il est devenu Jerry.
Et ce qui est étonnant de Manu, tu parles d'un groupe où des musiciens se sont choisis, ils ont même choisi la thématique, parce que moi je mettais pas de trait d'union entre Rick et Co. Et c'est toi qui m'as donné la notice explicative en disant, attention Tito, c'est les rythmes du Congo.
C'est ça.
Et on, ouais. Voilà, on condensait Rico.
Voilà, donc, mais vraiment un groupe mythique des années héroïques, parce qu'ils existaient... Tiens-toi bien, avant les indépendances, hein, ils se sont constitués avant les indépendances, et ils ont fait comme Molière, ils ont été des saltimbanques, ils ont fait la route, ils ont parcouru toute la côtière, comme on dirait maintenant, hein, à partir de Léopoldville, Brazzaville, et ils faisaient tous les pays, et ils s'arrêtaient vraiment dans tous les pays jusqu'à arriver jusqu'au Sénégal.
Et ce qui est incroyable, Don Manu, tu disais que le Rico Jazz, notamment le Don Bokilo, Jerry Malekani, ont connu des bouleversements dans leur propre pays, mais à distance.
À distance.
En disant que lui n'avait pas vu tous les troubles qui s'étaient déroulés du côté de Léopoldville.
Non, pendant ces troubles-là, lui, il était déjà au Cameroun, où il y avait des troubles aussi. Mais il était un peu... Alors, il faut dire que les orchestres congolais avaient un succès terrible, parce que il y a d'autres orchestres qui faisaient la route également, hein, qui faisaient la côtière, mais le plus connu, en fait, c'était eux, mais ils ont vécu toutes les respirations des indépendances de tous les pays où ils passaient, parce que c'était des années, justement, où les pays devenaient au fur et à mesure indépendants.
Et ce mot indépendance, pour eux, ben, ça peut être un mot qu'ils conjuguent en termes de carrière, parce que on regarde les composantes du groupe, et chacun, quand même, a une histoire, ben, multiple en termes de collaboration. Bokilo, Jerry Malekani, Casino, dont tu parlais du personnage, oui, qui était élégant, mais qui avait le coup de poing facile.
Exact. C'était une espèce de bad boy élégant.
Jano Dikoto Mandengue, lui aussi, a été de l'affaire, et avec col roulé, veste et une coupe de cheveux impeccable.
Voilà, ils étaient tous élégants, chacun à sa manière. Mais alors surtout, ce qui est terrible, c'est qu'ils venaient d'horizons différents et ils ont décidé quand même de mettre toutes les billes dans le même truc, quoi. Et c'est vu d'ici maintenant, est-ce que tu verras un orchestre qui ferait le même parcours, un orchestre? Il faut déjà que l'orchestre existe. Et eux, c'était vraiment un groupe avec un chanteur, certes, mais c'était pas un chanteur et le groupe. C'était le groupe, y compris le chanteur, comme à l'époque de Sinatra, avant que Sinatra devienne Sinatra lui-même, il était chanteur d'orchestre. Freddy était chanteur d'orchestre. C'était pas lui devant comme Olomidé et puis les musiciens. Est-ce que tu connais les musiciens de Olomidé?
Ah ben aujourd'hui pas tellement.
Voilà, donc c'est pour te donner un exemple, quoi. Ils sont tous devant, Fally Poupa et tout ça. Oh, tu les connais, eux, tu sais pas, ceux qui font la cuisine derrière. Ben, à cette époque-là, il y avait un groupe. Et dans le groupe, chacun avait sa voix, dont le chanteur avait sa propre voix.
Et ce qui est incroyable, d'ailleurs, en parlant de Freddy Mars Kunku, parce que lui aussi avait son surnom, c'est qu'ils vont comme ça, bon gré, malgré, se promener avec d'autres composantes. Il y a aussi une composante, en parlant des sous Spiritu, qui est assez incroyable, parce que finalement, lui, multiple. Un coup, c'est l'Oké Jazz, un coup, il y a les Bantous, un coup, il y a le Rico.
Ben, c'était un fabricant de quelque chose, hein, parce qu'il se mettait quelque part pour fabriquer quelque chose, et puisqu'il s'est mis avec Franco pour fabriquer l'Oké Jazz, ben, il s'est mis avec le Rico Jazz pour aller faire la tournée mythique, en fait, les séjours, les longs séjours aux Antilles. Donc là, c'était le premier groupe africain qui a habité, qui n'était pas juste de passage pour un concert, qui habitait des années aux Antilles. D'ailleurs, la plupart de ces gars-là se sont mariés aux Antilles.
Où on laissait des cadeaux, comme dit d'ailleurs le doyen, en parlant des sous Spiritu. Il dit, il y a un cadeau qui est là-bas et qui s'appelle Jean-Claude, qui est aujourd'hui un grand monsieur.
Oui, il y a des cadeaux un peu partout, hein. À part qu'aux Antilles, hein, je veux dire, tout le circuit, toute la côtière, il y a des prolongations du Rico Jazz dans sur toute la côtière, hein.
Et alors des rythmes, il y en a eu aussi beaucoup dans Manu, parce que le Rico colle à son époque. Un coup, ils sont en mode rock, twist, merengue. Il se refuse rien, et toi tu dis que c'est une capacité à répondre aux désirs du public.
Et le public était là, et donc ça a été l'un des premiers groupes d'ailleurs à faire des reprises. Hein, parce que les morceaux qui marchaient, qui étaient les morceaux de Franco, qui étaient des morceaux de Rochaud, de Cabassel, étaient repris. Tu vas voir, quand tu vas voir Merengue Scooby-Doo, c'est une reprise. Il y a plein de reprises là dans ce... Et c'était normal à l'époque, parce qu'en fait c'était quelque part des ambassadeurs de l'Afrique, et plus précisément des ambassadeurs des deux Congos. Donc tout ce qui était comme succès dans ces pays-là, eux, ils amenaient ça, non seulement physiquement, quoi. Je veux dire, il y avait les disques que les gens achetaient, mais il y avait aussi le fait qu'il y avait la prolongation avec des orchestres qui pouvaient donc jouer ça pratiquement même note sur note. Hein. Quand tu écoutes Merengue Scooby-Doo, qu'on va écouter tout à l'heure, la guitare de Nico n'est pas loin.
Ah oui, hein? Les influences et le son aussi d'un Manu, parce que ce qui est étonnant, tu avais ramené ces pépites d'ailleurs de Londres, le label Stearns, les édite encore, et pour notre plus grand bonheur, et le son, alors vraiment, On sent qu'il y a eu un véritable travail, parce que c'est vraiment sacrément bien léché pour l'époque.
Ouais, et puis l'ampli qui faisait dans ce vibrato, Bokilo, il était collectionneur aussi, et puis il avait l'oreille, hein, je veux dire, voilà, c'est un musicien qui avait une terrible oreille. Et donc les fréquences de Nico lui convenaient comme les fréquences de Franco. Il était d'abord, lui, un guitariste, mais en même temps, il pouvait être quelqu'un qui pouvait interpréter les trucs des autres. Comme les chanteurs peuvent reprendre une chanson, ben lui pouvait reprendre un solo de tous ces grands guitaristes que le Congo nous a donné, hein.
Et puis, belle anecdote, c'est qu'il avait déjà, à l'époque, une guitare de couleur rouge.
Alors, en plus, il était collectionneur. Il était collectionneur. Je ne sais pas ce qu'on sont devenus ces guitares, mais Bokilo, un être à part, une exception. J'ai eu une chance terrible de vivre plus de pratiquement 30 ans avec Bokilo, hein, quand même. Tu vois, c'est...
Et on l'avait opéré, d'ailleurs, pour voir son parcours discographique, c'était à peu près il y a 4-5 ans. Mmh. Il faudra qu'on remette le couvert, parce que moi, j'ai découvert un Bokilo avec un son des années 80, super avant-gardiste. J'ai découvert des albums solo du bonhomme, et je ne connaissais pas cette dimension musicale.
Ah, mais il te jouait le blues dans les règles, il te jouait... Tout ce qui était contemporain, Bokilo le jouait avec un petit sourire moqueur, puisqu'il était congolais, il était censé ne faire que de la rumba. Eh ben, enfin, lui, il était au-dessus de la rumba parce qu'il jouait tout, il jouait du rock, il jouait du jazz, il jouait. Alors quand il commençait à jouer même le makossa, n'importe quel rythme africain, le fait d'ailleurs qu'ils aient fait cette côtière, fait qu'à chaque fois qu'ils allaient dans un pays, quand c'était du high life, c'était au Ghana, ils te jouaient les morceaux. Enfin, c'était une bibliothèque, il était plusieurs, quoi. C'était une histoire à lui tout seul, une histoire d'une vision des musiques africaines.
Et ces musiques africaines, d'ailleurs, vous avez entendu le petit chat dehors de quelqu'un qui va parler avec nous en deuxième partie, c'est une vision d'une Afrique que l'on voit en grand. Eux, cette histoire de nationalité, Douamanou, elle passait un petit peu à côté, parce que quand on voit la manière dont ils ont fait des reprises de classiques venant d'autres pays, c'est quand on dit Mokili Mobimba pour le volet à Rochero,
ah ouais,
eux, ils étaient avant l'heure. Hein.
Voilà. Alors, ce qui est aussi terrible, c'est qu'ils ont fait partie de l'histoire de l'Afrique, musicalement parlant, mais on n'a jamais su. Toute ma vie, on a difficilement discuté de la politique avec Bokilo ou avec Nkunku. On parlait de tout sauf de la politique. Je ne sais pas de quelle tendance ils étaient. C'est pour te dire, quoi. Et c'était des gars qui étaient habités par la musique.
Et cette musique, elle résonne encore avec des succès qui aujourd'hui font le bonheur des cabarets ou des circuits, notamment Marie-Josée avec cette intro tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin, que les Hispanos aussi aiment bien.
Oui, parce que finalement, reprise pour reprise, les Cubains ont repris aussi voilà, des morceaux de Franklin Bukaka, des morceaux de Cabasele et tout ça. Un jour ou l'autre, d'ailleurs, il faudra fouiller sur le net et voir un tout petit peu les reprises que les Cubains ont fait de certaines de nos musiques, hein, parce que ça a été jusqu'à Poulimoi Monnier et tout ça, avec des accents, avec des onomatopées, parce qu'ils comprenaient pas les paroles, bien sûr. mais bon, les thèmes étaient là, les mélodies étaient là. Il y a eu des reprises des uns et des autres. Ben, notre émission, elle est là justement pour présenter un peu les différentes phases de ce que peut devenir un morceau. Là, c'est le merengue Scooby-Doo que tout le monde connaît par Nico et l'African Jazz. Et ben là, c'est une reprise, c'est un cover, comme on dit, hein. Ça a été des spécialistes de cover. Et puis, il y a un morceau qui leur appartient, Kumbele.
Eh oui, et pas Tumbele, justement, tu parlais des frères cubains qui eux disaient Tumbele, Tumbele. Ah, bon, voilà, ça leur appartient, mais en tout cas, ils l'ont fait magnifiquement au niveau des instruments. Et alors, on a le mambo Rico, et tu me disais, le mambo était une sensation dans les dancings.
Oui, le mambo, c'est le rythme des années 50, hein, Pérez Prado, qui... des grands orchestres d'ailleurs, Machito et tout ça, qui travaillaient beaucoup à Hollywood, et qui a amené le premier rythme qui a eu beaucoup de succès venant de Cuba, eh ben c'était le mambo, le cha-cha-cha est venu plus tard. Il y a d'abord le mambo et avec des arrangements un tout petit peu américains. Enfin, si tu veux, quelque part, il y avait du Tarzan à l'air. Quand je dis il y avait du Tarzan à l'air, c'est-à-dire les gens, ils ont l'impression que Tarzan, c'est en Afrique. Mais alors tu vois des Indiens, tu comprends pas exactement où ouais, si tu es Tarzan. Les Africains eux-mêmes, les Européens sont persuadés que Tarzan c'est en Afrique. Les Africains, eux, ils savent pas où se trouve Tarzan, tu vois.
On cherche toujours.
Voilà, alors le mambo c'est un peu ça, il y avait des arrangements à la Conbezi, mais avec des rythmes tropicaux. Et donc les Cubains étaient spécialistes de ça, ça a été leur premier vraiment grand succès aux États-Unis. Et il y a plein de films qui se passent à Hollywood où tu as une séquence de grands orchestres, Xavier Cugat et tout ça qui te jouait le mambo.
Et ce mambo d'ailleurs de Manu, alors aujourd'hui évidemment tout le monde pense au mambo number 5 qui était un tube dans les années 90, mais les mambo number 1, 2, 3, 4 existent bien avec Pérez Prado.
Bien sûr, ça a été le créateur de ça. En tout cas c'est lui, s'il n'est pas créateur, c'est lui qui a popularisé en tout cas ce rythme. Et donc il y avait effectivement le 1, 2, 3, 4, 5 et c'était assez spécial parce que c'était un assemblage de rythmes tropicaux, donc plus les arrangements, les harmonies un peu américaines, mais avec des mélodies qui venaient quand même du soleil, quoi.
Et du soleil, il y en avait aussi sur les bords de scène. Lorsque l'on parle de twisté, alors on se rend bien compte que nos amis étaient à la page parce que c'est un twist.
Oui, parce que ça, c'est les années 60. Le twist a été popularisé en France par un certain Bob Azam. Qui vit en Suisse, qui est d'origine nord-africaine, je sais plus de quel pays, Maroc et tout ça. En tout cas, un pied noir qui avait réussi. Et le premier twist qui a eu beaucoup de succès, c'est Amen. Amen. Et voilà. Donc, à partir de ça, les rythmes venant des États-Unis et le mode d'emploi, parce que twister, c'était naturellement makossa, c'est-à-dire tourner les hanches, quoi. Et ça a eu beaucoup de succès. Et donc, chaque orchestre essayait de faire son twist. Nous, eux, ils ont fait leur twist. Moi, j'ai fait twist à Léopoldville. Chacun, on sautait sur les rythmes du moment.
Et nos amis qui nous écoutent en France vont penser à twist à Saint-Tropez avec Dick Rivers.
Oui, avec le compositeur de ce twist. C'était un saxophoniste, son nom m'échappe en ce moment. Il avait co-composé ce twist avec, effectivement, notre ami Dick Rivers.
À qui on pense. Et enfin, pour clôturer cette première partie du jukebox, tu bois beaucoup. Alors les paroles sont très simples, parce que mon papa d'ailleurs le chantait facilement. Tu bois beaucoup, oui, tu bois beaucoup.
Déjà ça, ça suffit pour faire une chanson, hein. Ça suffit, je dis que quand tu as bu le temps, la notion du temps, hein, tu bois beaucoup. C'est aussi une reprise, c'est un des grands succès d'ailleurs des années 60 également, hein, parce qu'il y a beaucoup d'orchestres qui ont repris ça. C'était facile de prendre des reprises à cette époque-là. On n'avait pas encore l'idée que, oh, le gars là, il a volé la chanson de quelqu'un. C'était pas encore ça. Il y avait des reprises normales parce que les morceaux avaient du succès.
Un succès, c'est celui du Rico qui ne se dément pas. Et on vous en partage une première partie dans le jukebox.
Voilà, donc notre ami Hugo va se mettre une petite tune.
Dans le bass string.
Yes.
Le jukebox de Manu Dibango.
Avec Robert Tito.
Sur Africa Radio.
Africa Radio.
Kitty Bongo
sur Africa Radio.
Sur Africa Radio, nous sommes au pays du Rico Jazz de Amanou et le temps de la pause, eh ben, on a retrouvé le nom du compositeur de Twist à Saint-Tropez.
Voilà, c'était donc Guy Lafitte, un très grand saxophoniste de jazz, tendance Coleman Hawkins, soit mainstream, et qui voulait pas que, en fait, que son visage apparaisse dans les clips et tout ça, parce que faire des twists pour gagner sa vie, c'était pas digne d'un intellectuel que le jazz, voilà.
Ça, c'est pas mal.
Donc, il n'a jamais voulu, ou alors, les rares fois où il est apparu, il avait un masque.
Eh ben, dis donc.
Voilà, donc il avait un masque blanc quand il apparaissait à la télévision, parce que pour lui, c'était une honte, c'était pour un jazzman. Urtriger, d'ailleurs, René Urtriger, un très grand pianiste qui a joué avec Miles Davis et tout ça. Pareil, il jouait avec Claude François à un moment donné où le jazz ne payait plus. Eh ben, c'était une époque où il a gagné sa vie, mais où il avait honte de monter sur scène parce qu'il était connu comme un très grand pianiste de jazz.
Eh ben, dis donc.
Mais c'était pour les initiés et Claude François, c'est pour le peuple.
Eh oui, en tout cas, les arrangements, il faut le rappeler, étaient quand même sacrément bien léchés chez Clo-Clo, parce que on a d'ailleurs ressorti la bande originale du film Clo-Clo, qui a été fait par Alexandre Desplat, qui est multi-récompensé.
Slim, d'ailleurs.
Et Slim a travaillé beaucoup là-dedans. Il a travaillé dedans, et on se rend compte que ben, Clo-Clo passait quand même beaucoup, beaucoup de temps en studio, n'en déplaise à Matt Pokora. C'était pas du léger.
Attends, Clo-Clo, d'abord, c'est un musicien. Il faut pas oublier que c'était un percussionniste avant d'être danseur, et il travaillait au Sporting de Monaco dans l'orchestre de Aimé Barelli, l'un des plus grands trompettistes de France de cette époque-là. Avant de devenir Claude François ici, c'était un musicien connu et respecté dans l'orchestre d'Aimé Barelli.
Ah oui,
voilà.
Important de noter, ça peut expliquer les arrangements qui sont intemporels.
Donc il était difficile, forcément, à une époque où c'était la facilité do fa sol do fa sol.
Et alors, en revenant à nos amis du Rico, il y a aussi alors les clins d'œil à nos frères justement de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand je lis Wachiwara, je me dis, il y a des Wachiwara, il y en a eu combien de versions et surtout combien de titres?
Non, mais alors ça, on s'écrivait d'une façon, les pistolaires étaient terribles parce que eux, quand ils m'ont entendu, moi j'étais à Kinshasa, à Léopoldville, eux ils étaient déjà à Dakar. Et comme les distributions des disques, moi j'avais fait un Wachiwara, moi. Le premier Wachiwara qui est un morceau de Dizzy Gillespie au départ, avec un Cubain, c'est un des morceaux qui est très peu connu, mais nous on le jouait chez Fonseca, donc au vibraphone. Et il se trouve que eux, ils étaient à Dakar, ils se sont tombés sur le 1:45 tour de Manu, il y avait Wachiwara. Et Bukilo a pris ça. Vous dites, tiens, voilà, donc une façon de m'écrire. Et puis le deuxième, pareil, Nashengina, hein, c'est un de mes premiers tubes, si on peut dire, puisqu'on parle tube maintenant. En tout cas, c'est un de mes premiers succès. Et ils ont entendu ça. Comme ils ont adapté les autres morceaux, Marie-Josée et tout ça, eh bien, ils ont adapté également Nashengina. Et je sais pas, la version qu'on va écouter là, c'est probablement une rare version live, non?
Ah ben, déjà, alors c'est là, il y a la version, on a pris l'original, on s'est dit, tiens, on va prendre l'original, mais celle avec Mota Mwenya, que tu as exécuté ici dans les studios avec Richard et PC, veut aussi son pesant d'or, parce que Ekambi Brillant, d'ailleurs, dit que c'est un des morceaux qui est toujours chevillé au corps. C'est un de ses titres fétiches, et il n'a pas hésité à le chanter quand il était
jeune. Parce qu'il était jeune quand moi je le jouais dans les années 63-64 à Douala, il était encore très jeune. Tiens, je ne l'ai pas eu aujourd'hui, mais j'ai eu Henri, Koudoukoum.
Ah.
Qui était donc avec Mota Mwenya à Yaoundé.
Ah ben dis donc, au soleil, messieurs.
Voilà, donc ils m'ont fait un petit coucou. c'est marrant qu'on en parle comme ça, ben voilà, votre Mouenia, il va avoir un gombo quelque part.
Eh bien, on va leur donc offrir ces deux titres, parce qu'on a préféré prendre notre temps dans cette deuxième partie du jukebox, Wachiwara et Pinasengna Dima Bolane. Alors, il faut vraiment dire là, Doa Manu, que ce morceau, eh bien, il a une couleur où on est tout de suite au pays.
C'est oui, vraiment, c'est le pays, et puis les paroles, c'est vraiment pays, quoi. Nasengina Dima Bolane, j'ai entendu que parler les nouvelles, quoi, voilà. Il y a plein de femmes en ville, mais toi tu préfères les femmes des copains. Alors ça, comme c'est courant, tout le monde comprend ce langage.
Faut dire à Sergio Polo que le mari d'autrui, c'était derrière il y a plusieurs années. Hein.
Voilà, donc cette histoire-là, ça court tout peu partout en Afrique centrale, bah, en Afrique en général. Hein.
Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
Dima bolane, na singinyo lango, dima
Du Rico dans les bonnes crèmeries.
Oui, c'est une chance que ces Anglais-là, ils sortent des répertoires qu'on a du mal à trouver en France, mais logiquement, c'est bien distribué quand même, parce que ça nous est arrivé. Donc, dans les bonnes crèmeries, on doit pouvoir trouver cette époque-là, parce que effectivement, il n'y a pas que les Franco, les Cabassélé, il y a aussi ces groupes-là qui faisaient la route.
Une sacrée route, et d'ailleurs nous la reprendrons juste après un passage par la réclame, où nous retournerons en Afrique du Sud, mais pour un artiste différent.